Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Je vous invite à ouvrir un passage dans l'évangile de Marc au chapitre 15 et nous allons lire très très peu de versets, mais qui sont, eh bien, instructifs pour notre réflexion et construire notre foi et nous amener, eh bien, à nous rapprocher toujours plus du Seigneur, à lui faire confiance dans notre vie, quoi qu'il en soit, parce que c'est lui qui nous libère, c'est lui qui nous délivre et qui décharge nos cœurs et nos fardeaux de tout ce qui, parfois, nous oppresse. Alors, c'est dans Marc, je le répète, Marc, chapitre 15, verset 20. Alors, bien sûr, hein, cela fait référence avec ce jour de Pâques. Alors, verset 20. « Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. » Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers ce passage qui apparaît dans trois des évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Et il me semble que Marc donne des précisions qui sont intéressantes à considérer ce matin. Alors, les protagonistes de ce que nous rapporte l'évangéliste Marc. Alors d'abord, il y a Jésus. Jésus que l'on conduit au supplice. C'est ce que l'on appelle communément la passion. Et puis, il y a les soldats romains. Ils ne sont pas nommés dans notre... Mais on les comprend. Ils sont appelés tout simplement, désignés « ils ». Ils le menèrent, ils le conduisirent, etc. Alors les soldats romains qui font office d'exécuteurs consciencieux et insensibles allaient dire que c'est leur travail, mais je pense qu'il y a des œuvres qui sont plus ou moins faciles à accomplir. Mais ils font leur travail, tout simplement, et ils ne se posent même pas la question pour savoir, finalement, ils ne rentrent pas dans les considérations pour savoir qui est innocent ou coupable. Ils ne font qu'obéir. Jésus, les soldats romains, et puis il y a ce personnage sur lequel nous allons réfléchir. Il s'appelle Simon, ou Siméon, Simon de Cyrène. Et vous avez remarqué que trois lignes suffisent pour l'introduire dans l'histoire évangélique et de le faire disparaître aussitôt, parce qu'on n'entend plus parler de lui. Après, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On sait ce qu'il a fait. On sait d'où il vient, et puis il semblerait que le voile retombe sur ce personnage. Vous vous rendez compte? Il y a comme ça dans la Bible beaucoup de gens qui ne font que traverser, et pourtant qui ont marqué l'histoire. Il y a des gens qui se sont incrustés dans l'histoire pour vouloir me la marquer, de dire « eh bien moi je me ferai un nom, je demeurerai, on se souviendra de moi », mais... Simon de Cyrène, on va le voir, on va le découvrir, eh bien lui n'a rien fait de particulier, il était, on pourrait dire, peut-être même dépassé par les événements. Donc, une ligne, si peu, néanmoins une grande leçon pour chacun d'entre nous. Et vous allez voir, finalement, de si peu de mots, d'un personnage comme ça, fugitif, eh bien, peut-être qu'il va nous enseigner beaucoup de choses, ce Simon. Je rappelle qu'on est vendredi. C'est le vendredi. Et en Israël, c'est la veille d'un sabbat solennel, parce que c'est la Pâque juive. C'est quelque chose de très important. On va finalement, eh bien, arrêter toute chose Et puis là, c'est une grande fête. Et Simon, vous l'avez remarqué, c'est un étranger. Il est originaire de la ville de Cyrène. Alors, ça se trouve en Afrique, et particulièrement dans la Libye actuelle. Et nous apercevons qu'il avait deux fils, puisqu'il nous est dit que, eh bien là, il était père d'Alexandre et de Rufus. Alors, l'Alexandre de... On n'en a plus entendu parler, mais Rufus est devenu chrétien. Alors ça, c'est intéressant, vous le retrouvez dans la Bible. Comme quoi, eh bien, dans une situation dans laquelle on est emporté, on est emmené comme une vague, comme dans un tourbillon, eh bien, il peut y avoir finalement des conséquences heureuses. Et pourtant, ce n'était pas très agréable pour Simon, ce qui lui est arrivé. Mais pourtant, voilà ce que l'on peut dire. Donc, c'est un étranger. Et puis, il s'empresse de rentrer chez lui, car la loi l'y oblige. Il n'était pas juif. Mais néanmoins, eh bien, parce que c'était la grande fête solennelle, eh bien, il fallait que tout le monde s'empresse de rentrer chez soi. Et de la loi connaissait-il quelque chose, mais toujours est-il qu'il faisait comme tout le monde. Et il nous dit qu'il revenait des champs et il va pénétrer à Jérusalem parce que certainement c'est là où se situe sa maison. Et puis, chemin faisant pour rentrer chez lui, eh bien, un bruit inhabituel s'amplifie et il se rapproche. Il va dans la direction du bruit. C'était peut-être pas forcément la direction de sa maison, mais il se dit, mais qu'est-ce qui peut bien se passer à cette heure-ci? Alors il se rapproche. Et curiosité aidant, il aperçoit d'abord des prêtres qui sont tout excités. Il regarde un peu plus précisément, il voit que les femmes sont en train de pleurer. Et puis, une foule qui crie. Alors, tout ce brouhaha, tout ce tumulte l'attire. Et puis il remarque également que les soldats sont impassibles et il pousse devant eux, ces soldats, eh bien un homme qui traîne avec peine, avec beaucoup de peine, une croix. Alors il comprend ce qui se passe. Il va certainement réaliser. Et il se dit peut-être en lui-même encore un condamné à mort, parce que c'était pas rare. Les exécutions capitales et qui plus est publiques. Et là, il y avait beaucoup de monde pour voir un peu ce qui se passait. Alors peut-être qu'il y avait un petit peu plus de monde pour se condamner, appeler Jésus, prophète de Nazareth, parce qu'il avait aussi drainé avant beaucoup de monde. Mais les choses se sont passées très rapidement, hein. Il n'y a pas eu d'informations dans les journaux, etc. Mais les gens se sont rassemblés très très rapidement. Alors qu'il est en train de regarder, qu'il est en train de s'approcher, qu'il essaie de comprendre comme il peut, tout à coup un centenier appelle brutalement Simon. Pourquoi lui? Pourquoi? Pourquoi l'appelle-t-on? Et on va lui dire, probablement, c'est pas marqué, mais c'est moi qui le devine, parce que les choses nous l'indiquent, en tous les cas, on peut le comprendre par déduction. Ce centenier, ce capitaine, va dire à Simon, « Toi, viens et porte cette croix. » Voilà qu'il se retrouve dans une drôle de situation. Peut-être pour différentes raisons, parce que le centenier avait vu qu'il avait les épaules larges. Peut-être que ben, c'est le premier qui est tombé sous son regard. Et nous voilà que il lui est impossible de faire autrement. Et Simon est réquisitionné. Vous savez ce que c'est que la réquisition? Peut-être ceux qui ont connu les périodes sombres de l'occupation. Et beaucoup de choses qui n'appartenaient plus à grand monde. Hein. Parce que c'était la réquisition tout simplement. Et là c'est sa personne qui est réquisitionnée. C'est sa vie qui est réquisitionnée. On va pas lui faire du mal. Mais on va lui dire, maintenant tu vas faire comme on te dit, tu ne vas pas discuter, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement, et gare à toi si tu résistes. Donc, il va tout simplement prendre la place de Jésus. C'est quand même assez paradoxal, parce que toute la Bible nous dit que Jésus a pris notre place et c'est Simon qui va prendre la sienne. Curieux ça, hein? Ouais, c'est comme ça, mais on va voir. Et il prend la place de Jésus, et il va, avec son fardeau, se diriger dans la montée qui mène à Golgotha. On l'a appelé la Via Dolorosa. C'est une rue, chemin, certainement pas très confortable, comme à l'époque, des villes qui étaient faites pavées de pierres et avec toutes sortes de choses, assez étroites probablement. Et voilà comment les choses se passent. On ne lui a pas demandé son avis à Simon. Et il doit se dire, mais comme on le dit aujourd'hui, je me suis mis dans une drôle de galère. Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive ? On parle de galère aujourd'hui, hein. On n'a pas une petite idée de ce que ça peut être une galère pour ceux qui étaient il y a 4 ou 5 siècles et qui ramaient continuellement jusqu'à la mort. Alors on parle, bien sûr, on a retenu un petit peu que ça devait être quelque chose de terrible. Il doit se dire, mais si j'avais été un peu moins curieux, ah, quelquefois la curiosité, ça nous joue des tours. Si j'étais un petit peu moins curieux. Mais voilà, il se trouve là, il ne peut pas faire autrement. Et on peut dire, et vous allez le comprendre, il est vraiment à ce moment-là dans la peau du condamné à mort. Ouais. Il est tout à fait dans la configuration du condamné. Et les gens, vous allez voir comme c'est curieux quand même, les foules, c'est qu'elles vont insulter, sinon vraisemblablement comme elles insultaient Jésus. Vous savez, la foule, elle ne fait pas de distinction. Hein. Elle insultait Jésus. Et comme c'est Simon qui prend la suite, eh ben c'est Simon qui va être insulté. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, le discernement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. La perspicacité, alors encore moins. Hein. Et on va crier sur Simon. Quelle honte pour cet homme. Quelle honte qu'un homme qui revient des champs, qui a travaillé dur depuis le matin de bonne heure, qui arrive dans sa ville, dans sa maison, paisiblement, et qu'on lui sort toutes sortes d'abominations. Imaginez-vous, hein, je suis en train d'amplifier un peu, c'est pas que je veux faire du théâtre, hein, mais c'est certainement dans un petit peu dans ces configurations que les choses ont pu se passer. On peut se l'imaginer que ça s'est passé comme ça. Alors, les gens se mettent à crier après Simon. Et maintenant, Simon est loin de penser, en cet instant même qu'il est en train de vivre, que finalement son nom va devenir immortel. Vous vous rendez compte qu'en 2009, on parle de Simon de Cyrène à Saint-Nazaire. Je ne sais pas si on parlera de nous en 2000 ou 3000 ou 4000. Hein. Le Seigneur sera certainement revenu d'ici là. Hein. Mais quand même. Non mais, il a vécu des choses comme ça, emportées comme dans un tourbillon, sans savoir, sans le vouloir surtout. Et voilà qu'aujourd'hui, eh bien 2000 ans après, on parle encore de cet homme. Et il n'a pas fait des choses comme les grands conquérants du monde. Hein. Napoléon, Jules César, Alexandre, non. Et pourtant, on en parle. Et vous savez que la Bible, c'est un best-seller. Hein. C'est le livre le plus lu dans le monde. Et il y a certainement encore beaucoup plus de gens qui pensent l'histoire de Jean, l'histoire de Simon, ou l'histoire de Marie, vous savez, qui a pleuré sur les pieds de Jésus. Eh bien, il y a des gens qui la connaissent certainement mieux que l'histoire d'Alexandre ou de Jules César. Pourtant, ils n'ont pas fait grand-chose. Et là, eh bien, nous voyons que il ne s'attend pas, il ne sait pas non plus que la croix qu'il porte... Eh bien, va porter tout simplement le salut des hommes. Ça, il l'ignore. Il ne sait pas que l'homme épuisé, le condamné qui est à ses côtés, qui se traîne, c'est le Fils de Dieu. Il ne sait rien de tout ça. Nous, on le sait aujourd'hui. Simon devait probablement maugréer. Et il devait certainement pester en lui-même de s'être laissé embarquer dans une telle aventure. Parce que tout simplement, nous l'avons lu, ils le forcèrent. Les textes nous disent, ils le forcèrent à porter la croix. Ça, c'est restitué par Matthieu et par Marc. Et dans l'évangile de Luc, il nous est dit qu'ils le prirent et ils le chargèrent de la croix de Jésus. Ils le forcèrent et ils le chargèrent. Et c'est sur ces deux verbes que nous allons méditer maintenant. Être forcé, et quand contre notre gré nous sommes chargés. J'aimerais mettre devant vous et partager quelques considérations. Alors, Simon, mais pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Pourquoi lui, l'étranger ? Un juif innocent ou un romain de la même chose n'aurait jamais voulu porter la croix d'un condamné parce que c'était une infamie. Et vous savez que la croix était réservée dans l'Empire et puis chez les peuples anciens, hein, les Romains en particulier, eh bien pour les condamnés pour crimes de sang ou les esclaves qui s'enfuyaient. Et ça, c'était quelque chose qui était terrible. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que peut impliquer de souffrance hein, et de choses de douleur indicible hein, de ceux qui sont pendus sur une croix, parce que c'est pas une mort comme on peut se l'imaginer, c'est pas immédiat. Hein. Ça peut durer des heures, ça peut durer des jours. Et on ne meurt pas par autre chose que par tout simplement étouffement. Terrible. Et à la vue de tous. Pourquoi se trouvait-il à la place de Jésus? Est-ce que c'était un effet de compassion? Pas du tout, il ne l'avait pas choisi. Aurait-il manifesté à Jésus, au moment où Jésus passait dans sa proximité, sa sympathie un petit peu trop ouvertement? Parce qu'il avait entendu parler de lui en lui disant, bien écoute, tu es le Fils de Dieu, je crois en toi. Ça n'est pas dit. Et qu'à ce moment-là, le centenier l'ait remarqué et lui dit, bien écoute, puisque tu parles si bien et que tu cries si bien, tu vas prendre sa place. C'est pas dit non plus. Est-ce que les soldats, voyant Jésus épuisé, ne voulaient-ils pas perdre trop de temps ou de retard sur le trajet et en finir avec ces trois qui allaient être condamnés à mort? C'est ça la question aussi que l'on peut se poser. Je n'ai pas les réponses. Mais toujours est-il que l'on peut penser que les soldats avaient un travail à faire. Pour ça que je vous dis qu'ils étaient complètement insensibles. Ils se disent, voilà, nous avons reçu l'ordre, le mandat de mener trois hommes sur cette colline pour qu'ils puissent, pour qu'ils soient crucifiés, pour exécuter finalement la condamnation. Alors nous, on n'a pas de temps à perdre. Alors peut-être qu'ils voulaient que ça aille plus vite et ils ont pris un homme plus fort pour dire, eh bien voilà, on va accélérer un petit peu tout ça. Ou alors, voulait-on, en remplaçant Jésus, faire la preuve devant tous de l'impuissance du Christ? Puisque Jésus avait dit, en trois jours, je rebâtirai ce temple. Et ça, c'était pas tombé dans l'oreille de sourd. Il s'avait dit, ah oui, tiens, il est capable de renverser notre temple et puis de le rebâtir. Il est même pas capable de porter une croix. Ça, ce sont des considérations. Même pas capable de porter une croix. Alors, Simon est là, il est forcé, il est chargé, il est obligé, tout simplement. Je dirais que la lignée des Simons de Cyrène, n'est pas prête de s'éteindre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que celui qui a été le précurseur à porter la croix, eh bien, il y en a d'autres, à travers tous les temps, tous les siècles, dans toutes les générations, qui portent leur croix. Et qui la portent non pas parce qu'ils veulent la porter, mais parce qu'on leur impose de porter une croix. Alors, cette lignée, eh bien, va continuer. Parce que tous ceux dans tous les siècles et dans toutes les religions, et je souligne bien toutes les religions, sous la menace, tous ces hommes que l'on a forcés à porter une croix qu'ils n'avaient pas choisie, ceux qu'on a forcés à croire, à accepter bon gré mal gré une croyance imposée, contrainte sous peine d'enfer éternel, à se plier, à ployer sous le fardeau de leur conscience, ou un fardeau de conscience, à monter un chemin de calvaire. Et je vais vous donner des explications, mes frères et sœurs. Parce qu'ils sont nombreux, les Simons de Cyrène d'hier et d'aujourd'hui. Des gens où l'on dit, eh bien maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. C'est ainsi que ça va se passer. Et j'ai bien souligné quelque chose qui est peut-être triste à dire, mais je l'ai dit dans tous les siècles et dans toutes les religions. Et je soussigne le mot religieux. La foi, mes amis, est faite pour nous libérer. C'est pas le contraire. La foi est faite pour nous affranchir. La foi est faite pour nous donner de l'abondance de vie. Et Jésus d'ailleurs, le bon berger, dans Jean chapitre 10, cette parabole dite du bon berger, dit que il appelle ses brebis pour qu'elles viennent à lui et qu'elles soient dans l'abondance. Elles rentreront et elles sortiront. Ça, c'est la parole que j'ai compris. La parole que je connais, que je reconnais, comme étant la pensée profonde du cœur de Dieu. Alors, on s'aperçoit que toutes ces croyances imposées, sous peine de feu éternel, parce qu'on a toujours donné cette notion aujourd'hui dans notre 21e siècle, les choses vont un petit peu plus, les gens prennent de distance. Mais au Moyen-Âge, je peux vous dire qu'on parlait beaucoup plus de l'enfer que du ciel. Et on a contraint des générations, on a contraint des hommes et des femmes à faire ceci, à penser ceci ou cela, avec que des menaces et que des, comment peut-on dire, des anathèmes. Alors, voilà ce qui se passe avec notre Simon de Cyrène. Et Simon de Cyrène n'a jamais été plus tout seul, parce que finalement, eh bien, à travers tous les siècles, à la base de ce christianisme qui est avant tout un christianisme de liberté, Eh bien, on en a fait un christianisme de captivité, qui rend les gens malheureux, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur conscience, dans leur pensée, dans leur esprit. L'expression de l'oppression revient, ils le forcèrent à porter. On l'a lu, hein. Ils l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Est-ce que nous ne pourrions pas parler des forçats de la foi? C'est un mot abominable, le mot forçat. Ben, il veut bien dire ce que ça veut dire. Mais associé à la foi, alors là, c'est incompréhensible. Les forçats de la foi. C'est ces hommes, souvent, avec lesquels on a beaucoup de sympathie et de cœur, que l'on a mis au moment de la réforme au XVIe siècle, XVIIe siècle, sur les galères du roi, le roi Soleil, et que, parce que justement, ils ne voulaient pas adjurer leur foi en Jésus-Christ, et pouvoir conserver la liberté de lire la Bible paisiblement et tranquillement. Alors, on les a envoyés finalement sur ces galères. On les a appelés les forçats de la foi, mais ils sont là encore. Et si foi a un sens d'obligation, je dis bien que si foi, le mot foi, a un sens d'obligation, s'il a une connotation de servitude et de contrainte, alors c'est quelque chose de terrible. Et moi, je veux être un prédicateur du Nouveau Testament, de l'Évangile, parce que c'est un message qui est appelé la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, je la comprends, dans un affranchissement, dans une liberté et une vie pleine et entière que Dieu est capable de nous donner, qu'il veut nous donner. Beaucoup l'ont compris ainsi pour forcer les autres, mais dans l'autre sens, hein, dans le mauvais sens. Beaucoup, et je pense à tous ces gens qui ont été victimes, qui ont été saisis sur le bord du chemin, comme Simon qui passait par là, ou tout simplement à l'aurore de la vie, obligés contre leur volonté à être et à faire ce dont ils n'ont jamais fait le choix. Et ça, c'est terrible. C'est terrible d'être finalement sans avoir choisi. Dans la vie, il y a multiples événements où nous choisissons. Et si nous choisissons bien, c'est bien. Si nous choisissons mal, ben, c'est moins bien. Mais on peut dire, au moins j'ai choisi. J'ai eu la liberté de choisir. Peut-être que je me suis trompé, j'ai fait une erreur, j'ai été trop vite, je me suis précipité. Bon, ça, c'est autre chose. Mais au moins, j'ai choisi. Mais comme vous pensez qu'il y a des gens qui n'ont jamais choisi, et qu'on leur dit maintenant, c'est comme ça pour vous. On a décidé pour eux. Et surtout, on les a forcés, et on leur a présenté les choses pour la bonne cause. Aider, soulager. Et là, c'était pour aider et soulager Jésus. Parce qu'il ne pouvait plus porter sa croix. Et quand on détourne le sens, finalement, de la pensée de Dieu, qui est avant tout une pensée de libération et d'affranchissement, et que le détourne dans un sens contraire, et que l'on présente une bonne cause pour faire des gens des esclaves, alors là, même sous le couvert de Jésus, ou le couvert de la religion, combien de gens, des millions de gens à travers l'histoire, et quand je parle de religion, je ne veux pas parler seulement du christianisme. Vous allez dans le bouddhisme, vous allez dans l'islam, vous allez où vous voulez, regardez si vous voulez, et bien vous verrez que combien il y a d'hommes et de femmes qui, et bien sans l'avoir choisi, avec une bonne cause, sont devenus esclaves finalement. Je vais m'expliquer. Quelques exemples probants. N'est-ce pas de l'irrespect pour la personne humaine que de profiter de l'innocence, voire de l'inconscience d'un jeune enfant pour lui imposer sa religion? Je ne voudrais blesser personne, mais c'est quand même la constatation qui est faite. Et c'est pas d'aujourd'hui. Par un baptême obligatoire. Alors, on est passé par là, hein. C'est vrai. Mais n'est-ce pas de l'irrespect pour la personne elle-même? Pour lui imposer, finalement, au mépris des principes évangéliques, des principes élémentaires évangéliques du choix individuel. Dans la Bible, ce que j'ai lu dans le Nouveau Testament, hommes et femmes se firent baptiser. Il va y avoir dans 15 jours un baptême ici, avec des confessions et des professions de foi. Mais vous verrez, ce sont des hommes et des femmes. Ils ont choisi librement. Ils ont fait une expérience avec Jésus et à un moment donné, ils se sont dit, moi je veux suivre Jésus. Mais je me décide à le suivre. Et je ne suis pas du genre prédicateur ou pasteur, conducteur de cette église, pour faire des baptêmes, pour faire du nombre. Parce que je sais que ça, c'est une illusion. Les vrais convertis, ce sont ceux qui se décident eux-mêmes, qui sont appelés par le Seigneur et non pas par les hommes. Ça, c'est important de le dire. C'est une décision de maturité d'adulte, forcée à devenir. Et nous entendons encore ces paroles de Jésus qui résonnent dans nos oreilles, quand il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Mais il faut croire d'abord, et comment un petit enfant peut-il croire ? Ah oui, on va lui dire, ben on va se substituer pendant ton enfance, parce que... Et moi je dis qu'ils font partie de cette lignée des Simon de Cyrène, tout cela. Mais ils vont grandir. Ils s'apercevront au bout d'un certain temps que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'ils n'ont pas choisi eux-mêmes. J'entendais hier soir à la télévision, peut-être que vous l'avez entendu aux informations, il y a des gens actuellement, dans un certain monde que nous connaissons bien, se font débaptiser. Vous n'avez pas entendu ça ? Ouais. Débaptiser. Moi j'avais entendu ce qu'ils faisaient baptiser, mais débaptiser, j'avais entendu parler de ça. Ouais. Alors c'est curieux tout ça. Pareil à Simon de Cyrène, n'est-ce pas charger la conscience des hommes que de les enfermer à vie dans une crainte superstitieuse, faisant du ciel ou de l'enfer, eh bien dépendant de l'administration de sacrements magico-religieux ? Parce qu'on a décrété que c'était comme ça. Et combien de consciences, combien de cœurs ont été tourmentés ? Peur du jugement de Dieu. Peur des foudres du ciel. Peur de l'anathème. Peur de ceci, mais mes amis, on ne vit pas avec la peur quand on est chrétien, on vit avec la foi qui nous rassure. Elle est libératrice, cette foi. Elle nous a franchis, on est heureux d'être chrétien. On est épanoui. Enfin, moi je ne sais pas. Eh, souriez-moi au moins quand même. Faites-moi un sourire. Ouais, la vie n'est pas toujours facile, je le sais. Mais écoutez, on a quelqu'un avec nous. Il est formidable, notre Dieu. Il nous aime, hein. C'est extraordinaire. Alors, c'est bien, moi, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est une communication, hein. Moi, Jésus, c'est la lumière. Et il est clair, hein. Ouais. Et voilà qu'il y a des gens qui sont tombés dans toutes sortes de carcans. Ma maman était une catholique engagée. Eh bien, je pouvais dire que ce que j'ai pu retenir de ma maman, c'est qu'elle était très triste. Ouais. Très triste et malade dans sa conscience. Mais depuis toute petite, parce que on lui avait pas donné le choix et elle se posait toujours des questions, mais pas des questions dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ceci, cela, etc. et pourquoi ceci et cela? Ah. C'est dramatique, hein. Et Jésus dira aux Juifs de son temps cette parole qui est la vérité, redoutable mais qui est la vérité. Vous avez changé le commandement de Dieu au profit de votre tradition pour en faire des commandements d'hommes. Jésus est clair et net par rapport à cela. Pour en faire des commandements d'hommes. Puis je poursuis, comme Simon de Cyrène, plié sous le poids écrasant d'une croix non désirée ou qu'on lui a imposée, une foi qui s'est transformée en loi insupportable. Je dis bien une foi qui s'est transformée en loi insupportable. Et ça, c'est dramatique aussi. Enfermant le monde des croyants, enfermant les chrétiens dans un carcan de directives anti-bibliques du « tu feras, tu ne feras pas ». Tu ne mangeras pas, tu ne respireras pas, c'est dur. Tu, ceci, etc., etc. Ça, c'est Colossiens, chapitre 2. Mais, c'est quoi ça? C'est la loi des Mèdes et des Perses. Au risque de perdre son âme, d'être damné pour l'éternité. Ah, écoutez, c'est vraiment pas comprendre l'évangile. C'est l'apôtre Paul qui écrira, là où est l'esprit, là est la liberté. Et la parole de Dieu, la lettre, eh bien, elle tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et mes frères et mes sœurs, c'est dans notre lecture de la Bible, y compris l'Ancien Testament, particulièrement le Nouveau Testament, nous ne devons pas voir avec les yeux et interpréter dans la lettre, mais interpréter dans l'esprit, l'esprit de la lettre. Et là, ça fait vivre. Parce que si vous voulez mettre la lettre en pratique, eh bien, la prochaine fois que vous allez pécher, vous allez vous arracher un œil et une main. Et vous verrez que vous n'irez pas loin, parce que quand vous aurez fait les deux de chaque côté, il ne vous restera pas grand-chose. Ben oui, on doit vivre dans l'esprit. Et on comprend, Jésus, je n'ai jamais voulu dire les choses. Enfin, il les a dites, mais pour, par illustration, pour nous montrer. Hein. Pour montrer les choses comme ça. Alors, quand on parle, je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais brièvement, quand on parle du célibat obligatoire dans certaines catégories de société, de l'aveu de pauvreté, du moralisme de sainteté, qu'on appelle du puritanisme, la soumission aux autorités humaines, quelles qu'elles soient, je ne cite pas, et même chez nous, si nous devons avoir une crainte, c'est du Seigneur, c'est pas du pasteur. Je vous l'ai déjà dit, hein, vous le savez. L'imposition de dogmes contraires ou contradictoires à l'enseignement du Christ est déclarée comme article de foi, mais la parole de Dieu est suffisante pour nous enseigner. On n'a pas besoin des commandements d'église, on n'a pas besoin des commandements de ceci ou cela. Elle est déjà suffisante, cette parole. Sous peine d'égarement, pour ne pas dire de perdition. Moi, je veux que mes frères et mes sœurs soient épanouis et qu'ils puissent vivre en disant « Moi, je suis heureux d'être chrétien. » Ouais. Moi, je suis heureux d'être chrétien. Parce que je crois qu'il appartient aussi quand même au conducteur spirituel, au berger, finalement de donner un petit peu l'exemple. Moi, j'aime bien sourire et j'aime bien plaisanter, vous l'avez vu. Hein. Parce qu'il faut communiquer quelque chose. Et moi, je crois que Jésus avait beaucoup d'humour. Ah ouais. Et quand je lis ce que Paul écrit dans Galates, chapitre 5, verset 1er, il dit ceci, « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. » Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. On est sorti de la servitude. Alors que nous ne connaissions pas Christ, que nous avions certes notre culture religieuse et toutes ces choses qui l'accompagnaient, mais à partir du moment où j'ai lu la Bible, à partir du moment où le Seigneur est venu éclairer mon cœur, il m'a illuminé, et ça c'était quelque chose de formidable, alors j'ai compris que Christ m'avait affranchi, et il m'affranchit encore, hein, parce qu'il y a encore du travail chez moi. Je vais vous le dire, je voudrais vous rassurer. Et je veux vivre dans cet affranchissement. Et l'apôtre Paul est obligé de dire aux Galates qui avaient commencé par la vie de l'esprit en découvrant Jésus et qui étaient retournés à la loi, il leur dira « Mais demeurez donc fermes et surtout, de grâce, mes frères et mes sœurs, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude de quelqu'un qui viendrait vous voir en disant « Ah oui, mais pour que tu sois plus près de Dieu, pour que tu puisses être exaucé, pour que tu puisses ceci, pour que tu puisses cela, il faut que tu fasses ceci et cela. » Mais où est le tout accompli de la croix? Jésus a dit que tout était accompli. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je n'ai simplement qu'à le croire. Et vous êtes libéré. Et je suis libéré. Ne vous le mettez pas sous le joug qu'il y a des gens qui parlent bien et qui vous disent « Ah oui, mais attendez, il faut rajouter ceci, il faut rajouter cela, etc. » Avec des mots, des arguments et quelque chose qui, quelquefois, eh bien, a apparence de tenir debout. Mais ça ne tient pas debout du tout parce que c'est anti-biblique. C'est même plus dans la pensée, finalement, de l'Évangile. Ne vous laissez pas séduire par des fausses doctrines, par des faux docteurs, par des faux prophètes. Celui qui vous conduit, c'est Jésus, et par son esprit et par sa parole. Ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude tout à nouveau. Nombreux sont ceux qui ressemblent à Simon de Cyrène, qui portent leur fardeau péniblement, en se traînant, parce qu'ils ont davantage peur des hommes et de leurs représailles que du Dieu de grâce, qu'on l'aura soigneusement caché. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Lisez la Bible par vous-même. Lisez-la tous les jours. Imprégnez-vous de cette parole et vous allez voir qu'il va y avoir des choses qui vont tomber. Mais comme on a caché pendant des siècles et des siècles la Bible et qu'on l'a mis à l'index en disant c'est le livre des protestants et c'est le livre du diable, surtout n'y mettez pas les mains, encore moins les yeux, alors les gens ils ont marché. Et quand on ne peut pas avoir la connaissance de notre libérateur qui fait tomber nos chaînes, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous restez en prison tout simplement. Ouais. Et les hommes ont beaucoup plus peur des hommes que du Seigneur. Et nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, parce que c'est un Dieu de grâce. je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas dit je suis tous les jours contre vous. Et surtout quand on manifeste une bonne volonté, que malgré nos erreurs, malgré nos péchés, malgré nos fardeaux, malgré nos soucis qui quelquefois ressemblent à des montagnes, eh bien, à ce moment-là, quand nous nous rapprochons de lui en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi », mais le Seigneur ne va pas nous refuser de nous apporter son aide dans nos besoins. Ces hommes qui sont captifs n'osent pas s'élever, prendre position contre l'erreur, l'injustice des puissants et des grands. C'est le prophète Ésaïe, inspiré par Dieu, au chapitre 51, qui nous dit ceci. « C'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, pareil à l'herbe, et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait ?» Mes frères et sœurs, mettez votre confiance dans le Seigneur. Mettez votre confiance dans le Seigneur, c'est tout. Ah, c'est pas toujours facile de mettre confiance dans quelqu'un qu'on ne voit pas. Et pourtant, il est présent. Et je dirais que non seulement il est présent, mais il est puissant. Et ça, ça change tout. Parce que nous regardons des hommes qui sont peut-être présents, visiblement présents, mais qui sont impuissants. Enfin, le brave Simon de Cyrène est monté jusqu'au sommet de la colline des condamnés. Colline des condamnés. Où tous les efforts humains s'épuisent. Et là, au terme de cette marche d'esclave, vous connaissez hein, l'opéra de Verdi, Nabucco, marche des esclaves, hein, ça me fait penser à ça, simplement. Cette marche d'esclave, pouvoir déposer son fardeau en le confiant à quelqu'un d'autre qui a fait le reste, c'est-à-dire ce qu'aucun homme ne peut faire à notre place pour que nous n'ayons jamais plus à le faire, c'est-à-dire Jésus. Imaginez-vous, je reprends l'idée, imaginez-vous Simon de Cyrène qui est en train de monter lui aussi péniblement avec une croix qui est trop lourde, qui est très lourde. Et à un moment donné, il va arriver sur le sommet de Golgotha, il va déposer sa croix. C'est une belle image qui nous montre que nous devons déposer nos fardeaux sur ce mont Golgotha. Et que là, quelqu'un va monter sur la croix à notre place. Ce n'est pas Simon de Cyrène qui est monté sur la croix, c'est Jésus qui est monté sur la croix pour Simon de Cyrène, pour que là, il puisse être déchargé, lui, de son fardeau. Comprenez là, hein ? Facile, hein ? C'est ça, ce qui est important. C'est ça, la gloire de l'Évangile. C'est ça, le salut en Jésus-Christ. C'est que je peux monter des collines. Elles sont lourdes, hein, elles sont longues. Hein, enfin, lourdes, elles sont... Le fardeau est lourd et la colline est élevée. Et parmi ce que nous sommes, les uns et les autres, nous avons aussi des fardeaux qui sont très lourds. Et nous montons péniblement. Et nous espérons voir le bout de l'autre côté. En haut de là. Mais alors, à ce moment-là, vous allez vous arrêter à un moment donné. Et il va falloir comprendre qu'il va y avoir quelque chose qui va falloir fonctionner, c'est votre foi. Et que, à ce moment-là, vous avez peut-être porté votre fardeau, vous allez le déposer, justement là, à cet endroit-là, et quelqu'un a monté, est déjà monté sur la croix pour que vous n'ayez plus à porter votre fardeau. C'est ça le secret de l'Évangile. Et Jésus a fait le reste, et il va faire le reste pour vous. Seigneur, je viens à toi, je suis épuisé, je n'en peux plus, je suis malade. Mais Seigneur, je sais que maintenant c'est toi qui vas faire le reste. Je le sais, je le crois. Jésus a dit, tout est accompli. La foi, le pardon, la conscience libérée. Dans le psaume 81, au verset 6 et 7, il est dit ceci. « J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. » Lâchez donc la corbeille, s'il vous plaît. Lâchez votre corbeille qui est trop lourde. C'est une allusion à tous ces esclaves hébreux qui portaient les pierres pour construire les canaux ou pour construire les pyramides dans des corbeilles en osier, vous savez. Lâchez votre corbeille, les pierres sont trop lourdes. Méfiez-vous que si vous voulez la porter encore vous-même, cela va vous écraser. C'est le Seigneur qui va porter et il l'a déjà fait. Et en écho pour tous les Simons de Cyrène accablés, hier et aujourd'hui, alors cette parole vous la connaissez, on pourrait presque la dire ensemble. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau, j'allais dire très lourd. Le vôtre très lourd, le sien léger. Alors, simplement en conclusion, mon ami, toi qui portes une croix trop lourde, une croix de solitude, parce que ça, c'est pas facile à vivre, une croix de culpabilité, une croix qui s'appelle la hantise de la maladie et de son aboutissement. La peur de manquer demain, c'est une croix aussi. Hein. On était tellement habitué à avoir beaucoup de choses et dans la société de consommation, la peur de manquer demain. La peur de ne pas avoir assez pour payer ce que nous devons, nos crédits ou nos dettes. La peur de perdre son emploi, c'est d'actualité. La crainte de la mort. La peur du diable, les tourments de la conscience, les peines et les souffrances sentimentales et affectives, et il y en a. Cette croix que l'on appelle la persécution de la pensée, le deuil, les inquiétudes, les angoisses. Alors moi je voudrais vous dire, eh bien, déchargez-vous sur lui, car lui-même prend soin de vous. Et je vais terminer avec une petite histoire, vous voulez bien? Vous aimez, hein? Ben, Simon de Sirène, c'est déjà une belle petite histoire. Hein. Une petite illustration, je l'ai déjà donnée, mais je vais la rappeler parce que je commence à dire, il faut que je me répète. Je m'entraîne à répéter. C'est l'histoire d'un homme qui est aux prises avec de grandes difficultés, un homme de la vie. Hein. Il est découragé et il en arrive à s'apitoyer sur lui-même. Il se dit, mais je m'en sortirai pas, c'est pas possible. Il a des soucis dans son foyer, il a des soucis, la maladie et toutes sortes de choses. Et Il finit par dire, mais qu'est-ce que je suis malheureux. Il ne pense qu'à ça d'ailleurs. Puis un soir, en rentrant après son travail, son labeur, il rentre un soir avec un gros paquet qu'il avait acheté pour sa femme, pour son épouse. Et quand il rentre à la maison, au rez-de-chaussée, il va trouver sa petite fille, son unique petite fille, son unique fille. Mais ça fait partie aussi de ses grands problèmes. Elle est paralysée et elle est assise dans un fauteuil roulant. Donc, voilà ce qu'il trouve à ce moment-là. Alors il va saluer, il va faire un bisou à sa fille, il va lui dire « Bonjour ma chérie, et où est maman ?»« Où est ta maman ?» Alors elle va lui répondre tout simplement « Mais elle est en haut, papa, tout simplement. » Alors il lui dit « Mais j'ai un gros paquet pour ta maman, j'ai un gros cadeau pour elle, et je monte lui porter dans la chambre, tout simplement. » Et puis la petite fille va lui dire ceci « Mais oh papa, fais-moi plaisir. » Laisse-moi lui donner ce paquet. Permets-moi que je puisse lui donner ce paquet. Et le père, à ce moment-là, avec un air triste et désabusé, va lui répondre, mais ma chérie, tu sais bien que tu ne peux pas, dans ton état. Oui, parce qu'elle est paralysée, naturellement, dans ton état. Alors, cet enfant va regarder son papa avec un grand sourire. Et elle va lui dire, mais c'est vrai que je suis comme ça, c'est vrai que, tu sais, les choses sont ainsi. Mais papa, je te propose qu'on fasse quelque chose aujourd'hui. Parce que moi, j'ai vraiment envie d'aller donner le paquet de mes propres mains à maman. Hein, tu sais ce qu'on va faire? C'est que tu vas me donner quand même le paquet, je porte le paquet, et toi, tu me portes jusqu'à maman avec le paquet. Vous connaissez l'histoire? Mais attendez, c'est pas fini. Hein. Oh, bon, attendez. Voilà, comme ça on va faire de cette manière. Alors, le papa a porté sa petite fille dans ses bras, avec le paquet qu'elle tenait finalement, et cet homme, alors là, cet homme accablé, a compris à ce moment-là, il a compris dans l'instant que c'était exactement la position qu'il devait prendre face à tous ses problèmes, c'est-à-dire, non pas les porter parce qu'il l'écrasait, mais se laisser porter. Sa petite fille, infirme, paralysée dans sa chaise roulante, venait de lui donner une grande leçon de foi, une grande leçon de confiance, car quand on ne peut pas ou qu'on ne peut plus se faire porter par quelqu'un d'autre, finalement de plus fort que soi et de plus grand, eh bien c'est ça ce que nous avons besoin. Et Jésus est plus fort, il est plus grand. Et en plus, il nous aime. Alors, lorsque le Seigneur porte à notre place nos fardeaux, eh bien, nous n'en sentons plus le poids. C'est tout simple. Le fardeau est là. Peut-être la situation n'a pas changé, parce qu'elle va changer quand même. Hein. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Mais on n'en sent plus le poids, puisque finalement, on est porté par quelqu'un de plus fort et de plus grand. et quelqu'un qui nous aime pour pas que nous soyons accablés. Vous souviendrez de Simon de Cyrène? Hein? Il n'y a pas grand-chose hein, qui est dit sur lui, mais on peut dire beaucoup de choses. Parce que ça, c'est véritablement la caractéristique de notre monde qui souffre, et parfois même des enfants de Dieu qui souffrent à porter des croix qui sont trop lourdes. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car il prend soin de vous. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous te bénissons parce que nous sommes tous des Simon de Cyrène. Nous montons des collines, des montagnes. Et parfois, Seigneur, eh bien, nos poches sont pleines, nos mains sont encombrées. Notre dos, Seigneur, eh bien là, ploie sous la charge. Et notre cœur, Seigneur, est parfois même désespéré. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, le message de Pâques, c'est aussi un message où tu as donné la solution, où tu donnes la solution à l'humanité. Je te demande de bénir mes frères et mes sœurs, mes amis qui sont là. Fais-leur du bien, Seigneur, et qu'ils comprennent que c'est Jésus, Jésus seul. Et que Jésus n'est pas venu pour nous accabler, mais il est venu pour nous libérer. Oui, merci, Seigneur, pour de telles paroles. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous aider à les comprendre, comme il faut que nous les comprenions. Et que chacun d'entre nous, ce matin, nous puissions repartir avec la joie et la paix dans notre cœur. Avec ce bonheur, Seigneur, de marcher avec Jésus et de ce que Jésus marche avec nous, à nos côtés. Oui, Seigneur, tu bénis abondamment dans le nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de nous avoir donné Jésus et de ce qu'il est mort sur nous à la croix et de ce que maintenant je peux dire. Je peux vraiment m'imprégner de cette parole. Tout est accompli pour moi. Merci, Jésus. Amen. Amen.